que c'est la vie, mais on a envie de dire à sa femme, « Te plains pas, les tiens, ils sont au lit et ils dorment. » Pourtant, en l'absence du mari, ce sont bien les épouses qui font tenir la famille. Elles acceptent de partager leur homme avec la cause. Après avoir été pendant 2 ans vice-président de l'instruction au tribunal d'Angers, le juge Martineau est retourné au TGI de Nantes pour travailler à l'application des peines. Ironie de l'histoire, le voici devenu un Jap nantais, en remplacement de la collègue juge chargée du dossier Meillon. À ce poste, il rencontre les détenus, constate leurs efforts pour se réinsérer, autorise les libérations conditionnelles. Même s'il passe pas mal de temps dans les prisons, son travail est tourné vers l'avenir, alors qu'un juge d'instruction regarde nécessairement vers le passé. Quelques jours avant de prendre ses fonctions de JAP, il est passé dans la galerie de l'instruction pour faire la bise à son ancienne greffière. Il a retrouvé son bureau à moitié vide, rempli de cartons à envoyer à la benne, ce bureau où les gendarmes du PSIG ont monté la garde avec leurs fusils d'assaut. Cette chaise où Meillon s'est installé avant de lui rôter au visage. Dans un coin très net, parmi les vieilles paperasses à jeter, la chronologie des faits et gestes de Meillon en janvier 2011, que l'analyste criminel avait patiemment établi jour après jour, audition après audition, expertise après expertise. C'est une immense feuille de 4 mètres sur 2 que les gendarmes de la cellule d'enquête pouvaient examiner sur le mur. Le juge Martineau l'a emporté comme souvenir. Comme tous les juges récemment nommés au TGI de Nantes, il a été reçu, en signe de bienvenue, par le président du tribunal. Ce dernier, lui-même un nouveau venu, ignorait que Martineau avait passé plusieurs années à l'instruction, ici même, à quelques coursives de là. Pensant le mettre au courant, le président lui a expliqué que la maison avait été traumatisée par une affaire survenue 4 ou 5 ans plus tôt. Un fait divers horrible dont tous les médias ont parlé. Une jeune fille tuée et découpée par un multirécidiviste. Sarkozy a accusé les juges, ce qui a déclenché un énorme mouvement de grève. Le juge Martineau le laisse venir. « Je crois que c'était une jogueuse », conclut le président pensivement. Le juge Martineau revient dans son tribunal comme un anonyme. Une page se tourne. Il va avoir 40 ans. Franck Perret a raconté dans l'édition nantaise de 20 minutes comment il avait pété les plombs après la mort de sa fille. Un jour, alors que je n'arrêtais pas de chialer et de taper dans les murs, j'ai pris ma voiture pour aller me jeter en Loire. Mais, comme j'avais fait juste avant la tournée des troquets, je me suis fait arrêter par la police. Du coup, je vais être bientôt jugé en correctionnel pour conduite en état d'ivresse. Aujourd'hui, il va mieux. Son petit appartement est un mausolée à la mémoire de Laetitia. Il s'investit dans la recherche d'enfants disparus. Les gens l'aperçoivent à la télévision, le reconnaissent dans la rue. Parfois, on lui jette des insultes au visage. « Tu veux te faire de la gloire sur la tête de ta fille ?» D'une certaine manière, la mort de Laetitia lui a donné une identité. Mais quels que soient ses torts, il a beaucoup perdu. Bilan de 10 ans à l'ASE, une fille violée, une fille tuée. Avec Jessica, il est plus présent, plus attentionné. Il se trompe toujours dans les prénoms, il l'appelle Laetitia. Récemment, il lui a offert une médaille en forme de cœur où sont gravés les portraits de Laetitia et de sa demi-sœur, avec lui entre les deux. Après les marches blanches de janvier 2011, quelques initiatives ont vu le jour. Stéphane et Delphine Perret ont créé un site internet intitulé « N'oubliez jamais Laetitia Perret ». Sylvie Larcher est toujours en dépression. On lui fait des piqûres. Jessica la protège. « Non, maman, faut pas aller au procès. Non, maman, n'allume pas la télé. » Je n'ai pas fait d'entretien avec elle. Son frère et son avocate m'en ont dissuadé. Mes questions lui auraient fait du mal. Madame Larcher est un espace blanc entre les mots. Lors de notre 5e entretien, peu avant Noël 2014, dans un café près de la FNAC, un chocolat chaud pour elle, un thé pour moi, que j'ai laissé refroidir sans y toucher, j'ai demandé à Jessica quelle était l'image la plus heureuse qu'elle gardait de sa sœur. Elle m'a répondu sans hésitation, l'après-midi où on a appris à danser le Madison. C'était dans le jardin des Hermons en Haute-Savoie, le 7 juillet 2007, ou 777, après le mariage de leur fils à la mairie. Il fallait se préparer pour le grand bal du soir. Le Madison se danse en ligne, on avance.